Charles, après avoir fait 1000 tours dans sa chambre en chanteronnant, descendit enfin. Heureusement, il n'était encore que 11 heures. Le Parisien. Il avait mis autant de coquetterie à sa toilette que s'il se fût trouvé au château de la noble dame qui voyageait en Écosse. Il entra de cet air affable et riant qui sied si bien à la jeunesse et qui causa une joie triste à Eugénie. « Avez-vous bien passé la nuit, ma chère tante? Et vous, ma cousine ?»« Bien, monsieur, mais vous ?» dit Madame Grandet. « Moi, parfaitement. » « Vous devez avoir faim, mon cousin, » dit Eugénie. « Mettez-vous à table. »« Mais je ne déjeune jamais avant midi, le moment où je me lève. »« Cependant, j'ai si mal vécu en route que je me laisserai faire. » »« D'ailleurs, il tira la plus délicieuse montre plate que Béguet ait faite. »« Tiens, mais il est 11 heures, j'ai été matinale. »«
Matinale ?» dit Madame Grandet.
« Oui, mais je voulais ranger mes affaires. Eh bien, je mangerai volontiers quelque chose, un rien. » Une volaille, un perdreau.
Sainte Vierge ! Cria Nanon en entendant ces paroles.
Un perdreau, se disait Eugénie qui aurait voulu payer un perdreau de tout son pécule.
Venez vous asseoir, lui dit sa tante.
Le dandy se laissa aller sur le fauteuil comme une jolie femme qui se pose sur un divan. Eugénie et sa mère prirent des chaises et se mirent près de lui devant le feu. « Vous vivez toujours ici ?» leur dit Charles en trouvant la salle encore plus laide au jour qu'elle ne l'était aux lumières.
« Toujours ?» répondit Eugénie en le regardant. « Excepté pendant les vendanges. Nous allons alors aider Nanon et logeons tous à l'abbaye de Noyers. »«
Vous ne vous promenez jamais ?»«
Quelquefois le dimanche après vêpres, quand il fait beau, » dit Madame Grandet. « Nous allons sur le pont ou voir les foins quand on les fauche. »
« Avez-vous un théâtre ?»«
Allez au spectacle !» s'écria Madame Grandet. « Voir des comédiens ? Mais monsieur, ne savez-vous pas que c'est un péché mortel ?»«
Tenez, mon cher monsieur, » dit Nanon en apportant les œufs. « Nous vous donnerons les poulets à la coque. »«
Oh, des œufs frais !» dit Charles, qui, semblable aux gens habitués au luxe, ne pensait déjà plus à son perdreau.
« Mais c'est délicieux. Si vous aviez du beurre... » « Ah, ma chère enfant !»«
Ah, du beurre ? Vous n'aurez donc pas de galette, » dit la servante.
« Mais donne du beurre, Nanon !» s'écria Eugénie. La jeune fille examinait son cousin coupant ses mouillettes et y prenait plaisir, autant que la plus sensible grisette de Paris en prend à voir jouer un mélodrame où triomphe l'innocence. Il est vrai que Charles, élevé par une mère gracieuse, perfectionné par une femme à la mode, avait des mouvements coquets, élégants, menus comme le sont ceux d'une petite maîtresse. La compatissance et la tendresse d'une jeune fille possèdent une influence vraiment magnétique. Aussi, Charles, en se voyant l'objet des attentions de sa cousine et de sa tante, ne put-il se soustraire à l'influence des sentiments qui se dirigeaient vers lui en l'inondant pour ainsi dire. Il jeta sur Eugénie un de ses regards brillants de bonté, de caresse, à un regard qui semblait sourire. Il s'aperçut en contemplant Eugénie de l'exquise harmonie des traits de ce pur visage, de son innocente attitude, de la clarté magique de ses yeux où scintillaient de jeunes pensées d'amour et où le désir ignorait la volupté.
« Ma foi, ma chère cousine, si vous étiez en grande loge et en grande toilette à l'opéra, je vous garantis que ma tante aurait bien raison. »
Vous y feriez faire bien des péchés d'envie aux hommes et de jalousie aux femmes. » Ce compliment étreignit le cœur d'Eugénie et le fit palpiter de joie, quoiqu'elle n'y comprît rien.
« Oh, mon cousin, vous voulez vous moquer d'une pauvre petite provinciale ?»«
Si vous me connaissiez, ma cousine, vous sauriez que j'aborde la raillerie. Elle flétrit le cœur, froisse tous les sentiments. » Et il goba fort agréablement sa mouillette beurrée.
« Non. » Je n'ai probablement pas assez d'esprit pour me moquer des autres, et ce défaut me fait beaucoup de tort. À Paris, on trouve moyen de vous assassiner un homme en disant « il a bon cœur ». Cette phrase veut dire « le pauvre garçon est bête comme un rhinocéros ». Mais comme je suis riche et connue pour abattre une poupée du premier coup à 30 pas avec toute espèce de pistolet et en plein champ, la raillerie me respecte.
Ce que vous dites, mon neveu, annonce un bon cœur. Vous avez une bien jolie bague, dit Eugénie. « Est-ce mal de vous demander à la voir ?» Charles tendit la main en défaisant son anneau et Eugénie rougit en effleurant du bout de ses doigts les ongles roses de son cousin.
Voyez, ma mère, le beau travail.
Oh, il y a gros dehors, dit Nanon en apportant le café.
Qu'est-ce que c'est que cela ? Demanda Charles en riant. Et il montra un pot oblong, en terre brune, verni, faïencé à l'intérieur, bordé d'une frange de cendre, et au fond duquel tombait le café en revenant à la surface du liquide bouillonnant.
C'est du café boulu ? Dit Nanon.
Ah, ma chère tante, je laisserai du moins quelques traces bienfaisantes de mon passage ici. Vous êtes bien arriérée, je vous apprendrai à faire du bon café dans une cafetière à la Chaptal. Il tenta d'expliquer le système de la cafetière à la Chaptal.
Eh ben, s'il y a tant d'affaires que ça, dit Nanon, il faudrait bien y passer sa vie.
Jamais je ne ferai de café comme ça.
Ah bah oui.
Et qu'est-ce qui ferait de l'herbe pour notre vache pendant que je ferai le café ?
C'est moi qui le ferai, dit Eugénie.
Enfant, dit Madame Grandet en regardant sa fille. À ce mot qui rappelait le chagrin près de fondre sur ce malheureux jeune homme, les trois femmes se turent et le contemplèrent d'un air de commisération qui le frappa.
Qu'avez-vous donc, ma cousine ?
Chut, dit Madame Grandet à Eugénie qui allait parler.
Tu sais, ma fille, que ton père s'est chargé de parler à monsieur.
Dis Charles, dit le jeune Grandet.
Ah, vous vous nommez Charles ? C'est un beau nom ! S'écria Eugénie.
Les malheurs pressentis arrivent presque toujours. La Nanon, Madame Grandet et Eugénie, qui ne pensaient pas sans frisson au retour du vieux tonnelier, entendirent un coup de marteau dont le retentissement leur était bien connu.
« Voilà papa !» dit Eugénie.
Elle ôta la soucoupe au sucre et en laissa quelques morceaux sur la nappe. Nanon emporta l'assiette aux œufs. Madame Grandet se dressa comme une biche effrayée. Ce fut une peur panique de laquelle Charles s'étonna sans pouvoir se l'expliquer.
« Eh bien, qu'avez-vous donc ?» leur demanda-t-il. « Mais voilà mon père !» dit Eugénie.
« Eh bien !» Monsieur Grandet entra, jeta son regard clair sur la table, sur Charles, il vit tout.
« Ah ah ! Vous avez fait fête à votre neveu ! C'est bien ! Très bien ! C'est fort bien »
dit-il sans bégayer.
« Quand le chat court sur les toits, les souris dansent sur les planchers !»«
Fête ?» se dit Charles, incapable de soupçonner le régime et les mœurs de cette maison.
« Donne-moi mon verre, Nanon !» dit le bonhomme.
Eugénie apporta le verre. Grandet tira de son gousset un couteau de corne à grosse lame, coupa une tartine, prit un peu de beurre, l'étendit soigneusement et se mit à manger debout. En ce moment, Charles sucrait son café. Le père Grandet aperçut les morceaux de sucre, examina sa femme qui pâlit et fit trois pas. Il se pencha vers l'oreille de la pauvre vieille et lui dit « Où donc avez-vous pris tout ce sucre ?»«
Nanon est allée en chercher chez Fessard, il n'y en avait pas. »
Charles, ayant goûté son café, le trouva trop amer et chercha le sucre que Grandet avait déjà serré.
« Que voulez-vous, mon neveu ?» lui dit le bonhomme.
« Le sucre ?»«
Mettez du lait !» répondit le maître de la maison. « Votre café s'adoucira !»
Eugénie reprit la soucoupe au sucre que Grandet avait déjà serrée et la mit sur la table en contemplant son père d'un air calme.
« Tu ne manges pas, ma femme ?»
La pauvre ilote s'avança, coupa piteusement un morceau de pain et prit une poire. Eugénie offrit audacieusement à son père du raisin en lui disant «
Goûte donc à ma conserve, papa. Mon cousin, vous en mangerez, n'est-ce pas ? Je suis allée chercher ces jolis grappes-là pour vous. »
« Oh, si on ne les arrête, elles mettront saumure au pillage pour vous, mon neveu. Quand vous aurez fini, nous irons ensemble dans le jardin. J'ai à vous dire des choses qui ne sont pas sucrées. »
Eugénie et sa mère lancèrent un regard sur Charles, à l'expression duquel le jeune homme ne put se tromper. « Qu'est-ce que ces mots signifient, mon oncle ? Depuis la mort de ma pauvre mère ?» À ces deux mots, sa voix mollit. « Il n'y a pas de malheur possible pour moi. » « Mon neveu, qui peut connaître les afflictions par lesquelles Dieu veut nous éprouver, » lui dit sa tante.
« Ta 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 !» dit Grandet. « Voilà les bêtises qui commencent. Je vois avec peine, mon neveu, vos jolies mains blanches. »
Il lui montra les espèces d'épaules de mouton que la nature lui avait mises au bout des bras.
« Voilà des mains faites pour ramasser des écus. Vous avez été élevé à mettre vos pieds dans la peau avec laquelle se fabriquent les portefeuilles où nous serrons les billets de commerce. Mauvais, mauvais !» L'avare fit claquer la lame de son couteau, but le reste de son vin blanc et ouvrit la porte.
« Mon cousin, ayez du courage !»
L'accent de la jeune fille avait glacé Charles, qui suivit son terrible parent en proie à de mortelles inquiétudes. Eugénie, sa mère et Nanon vinrent dans la cuisine, excitées par une invincible curiosité à épier les deux acteurs de la scène qui allait se passer dans le petit jardin humide, où l'oncle marcha d'abord silencieusement avec le neveu. Grandet n'était pas embarrassé pour apprendre à Charles la mort de son père, mais il éprouvait une sorte de compassion en le sachant sans un sou, et il cherchait des formules pour adoucir l'expression de cette cruelle vérité. « Eh bien, mon garçon, reprit l'oncle, j'ai de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ton père est bien mal. »
Pourquoi suis-je ici ? Dit Charles. Nanon, cria-t-il, des chevaux de poste. Je trouverai bien une voiture dans le pays, ajouta-t-il en se tournant vers son oncle qui demeurait immobile.
Les chevaux et la voiture sont inutiles, répondit Grandet en regardant Charles, qui resta muet et dont les yeux devinrent fixes. Oui, mon pauvre garçon, tu devines, il est mort. Mais ce n'est rien. Il y a quelque chose de plus grave, il s'est brûlé la cervelle.
Mon père ?
Oui, mais ce n'est rien. Les journaux glosent de cela comme s'ils en avaient le droit. Tiens, lis. Grandet, qui avait emprunté le journal de Cruchot, mit le fatal article sous les yeux de Charles. En ce moment où le pauvre jeune homme, encore enfant, encore dans l'âge, où les sentiments se produisent avec naïveté, fondit en larmes. « Allons bien, se dit Grandet. Ses yeux m'effrayaient. Il pleure, le voilà sauvé. » « Ce n'est encore rien, mon pauvre neveu, » reprit Grandet à haute voix, sans savoir si Charles l'écoutait. « Ce n'est rien, tu te consoleras, mais... jamais, jamais, mon père, mon père. Il t'a ruiné, tu es sans argent. Qu'est-ce que cela me fait ? Où est mon père, mon père ?» Les pleurs et les sanglots retentissaient entre ces murailles d'une horrible façon et se répercutaient dans les échos. Les trois femmes saisies de pitié pleuraient. Les larmes sont aussi contagieuses que peut l'être le rire. Charles, sans écouter son oncle, se sauva dans la cour, trouva l'escalier, monta dans sa chambre et se jeta en travers du lit en se mettant la face dans les draps pour pleurer à son aise loin de ses parents. « Il faut laisser passer la première averse, » dit Grandet en rentrant dans la salle où Eugénie et sa mère avaient brusquement repris leur place et travaillait d'une main tremblante après s'être essuyé les yeux. Mais ce jeune homme n'est bon à rien. Il s'occupe plus des morts que de l'argent. Eugénie frissonna en entendant son père s'exprimant ainsi sur la plus sainte des douleurs. Dès ce moment, elle commença à juger son père. Quoique assourdie, les sanglots de Charles retentissaient dans cette sonore maison, et sa plainte profonde, qui semblait sortir de dessous terre, ne cessa que vers le soir, après s'être graduellement affaibli. « Pauvre jeune homme, » dit Madame Grandet. Fatale exclamation. Le père Grandet regarda sa femme, Eugénie et le sucrier. Il se souvint du déjeuner extraordinaire apprêté pour le parent malheureux et se posa au milieu de la salle. « Ah ça, j'espère !» dit-il avec son calme habituel, que vous n'allez pas continuer vos prodigalités, Madame Grandet. Je ne vous donne pas mon argent pour embuquer de sucre ce jeune drôle.
Ma mère n'y est pour rien, dit Eugénie. C'est moi qui...
Est-ce parce que tu es majeure, reprit Grandet en interrompant sa fille, que tu voudrais me contrarier ? Songe, Eugénie...
« Mon père, le fils de votre frère ne devrait pas manquer chez vous de... »«
Ta, 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 » dit le tonnelier sur quatre tons chromatiques. « Le fils de mon frère par-ci, mon neveu par-là. Charles ne nous aide rien, il n'a ni sou ni maille. Son père a fait faillite et quand ce mirliflore aura pleuré son sou, il décampera d'ici. Je ne veux pas qu'il révolutionne ma maison. »«
Qu'est-ce que c'est, mon père, que de faire faillite ?» demanda Eugénie.
« Faire faillite, » reprit le père, « c'est commettre l'action la plus déshonorante entre toutes celles qui peuvent déshonorer l'homme. » Ces mots retentirent dans le cœur de la pauvre fille et y pesèrent de tout leur poids. Probe autant qu'une fleur née au fond d'une forêt est délicate, elle ne connaissait ni les maximes du monde, ni ses raisonnements capiteux, ni ses sophismes. Elle accepta donc l'atroce explication que son père lui donnait à dessein de la faillite, sans lui faire connaître la distinction qui existe entre une faillite involontaire et une faillite calculée.
« Eh bien, mon père, vous n'avez donc pu empêcher ce malheur ?»«
Mon frère ne m'a pas consulté. D'ailleurs, il doit 4 millions. »«
Qu'est-ce que c'est donc 1 million, mon père ?» demanda-t-elle avec la naïveté d'un enfant qui croit pouvoir trouver promptement ce qu'il désire.
« 2 millions ?» dit Grandet, mais c'est 2 millions de pièces de 20 sous et il faut 5 pièces de 20 sous pour faire 5 francs.
« mon Dieu !» s'écria Eugénie. « Comment mon oncle avait-il eu à lui 4 millions ?»« Mais que va devenir mon cousin Charles ?»«
Il va partir pour les Grandes Indes où, selon le vœu de son père, il tâchera de faire fortune. »
« Mais a-t-il de l'argent pour aller là ?»«
Je lui payerai son voyage. Jusqu'à... oui, jusqu'à Nantes. »
Eugénie sauta d'un bond au cou de son père. « Ah, mon père, vous êtes bon, vous !» Elle l'embrassait de manière à rendre presque honteux Grandet que sa conscience harcelait un peu. « Faut-il beaucoup de temps pour ramasser 1 million ?» lui demanda-t-elle.
« Dame, dit le tonnelier, tu sais ce que c'est qu'un Napoléon ?» « Eh bien, il en faut 50 000 pour faire 1 million. »«
Maman, nous dirons des neuvaines pour lui. »« J'y pensais, » répondit la mère.
« C'est cela, toujours dépenser de l'argent, » s'écria le père.
« Ah ça, croyez-vous donc qu'il y ait des 1000 et des 100 ici ?»
En ce moment, une plainte sourde, plus lugubre que toutes les autres, retentit dans les greniers et glaça de terreur Eugénie et sa mère.
« Nanon, va voir là-haut s'il ne se tue pas, » dit Grandet.
« Ah ça !» reprit-il en se tournant vers sa femme et sa fille, que son mot avait rendu pâle. « Pas de bêtises, vous deux. Je vous laisse. Je vais tourner autour de nos Hollandais qui s'en vont aujourd'hui. Puis j'irai voir Cruchot et causer avec lui de tout ça. »
Il partit. Quand Grandet eut tiré la porte, Eugénie et sa mère respirèrent à leur aise. Avec cette matinée, jamais la fille n'avait senti de contrainte en présence de son père. Mais depuis quelques heures, elle changeait à tout moment et de sentiments et d'idées.
« Maman, pour combien de louis vend-on une pièce de vin ?»«
Ton père vend les siennes entre 100 et 150 francs, quelquefois 200, à ce que j'ai entendu dire. »«
Quand il récolte 1 400 ?»«
Ma foi, mon enfant, je ne sais pas ce que cela fait. »« Ton père ne me dit jamais ses affaires. »
Mais alors, papa doit être riche?
Peut-être. Mais M. Cruchot m'a dit qu'il avait acheté Froidfond il y a 2 ans. Ça l'aura gêné.
Eugénie, ne comprenant plus rien à la fortune de son père, en resta là de ses calculs.
Il ne m'attend seulement point vu, le mignon, dit Nanon en revenant. Il est étendu comme un veau sur son lit et pleure comme une madeleine, que c'est une vraie bénédiction. Quel chagrin a donc ce pauvre gentil jeune homme!
Allons donc le consoler bien vite, maman. Et si l'on frappe, nous descendrons.
Madame Grandet fut sans défense contre les harmonies de la voix de sa fille. Eugénie était sublime, elle était femme. Toutes deux, le cœur palpitant, montèrent à la chambre de Charles. La porte était ouverte. Le jeune homme ne voyait ni n'entendait rien. Plongé dans les larmes, il poussait des plaintes inarticulées.
Comme il aime son père, dit Eugénie à voix basse.
Il était impossible de méconnaître dans l'accent de ses paroles les espérances d'un cœur à son insu passionné. Aussi, Madame Grandet jeta-t-elle à sa fille un regard empreint de maternité. Puis, tout bas à l'oreille, « Prends garde. Tu l'aimerais, » dit-elle.
« L'aimer ? » reprit Eugénie.
« Ah, si tu savais ce que mon père a dit !»